Ce n'est que dans la seconde partie du XVIIIe siècle qu'un discours proprement économique commence à se distinguer nettement des autres discours sur les sociétés humaines et leur bon gouvernement. Certes, ont été publiées auparavant des thèses que l'on peut déjà qualifier d'économiques, comme celles des mercantilistes et des physiocrates. Mais ces thèses ne portaient que sur une partie de la réalité qu'embrassera le père fondateur de l'économie, qu'on appelle d'ailleurs à l'époque économie politique, à savoir l'Écossais Adam Smith. Adam Smith définit l'objet de l'économie dans le titre même de son ouvrage fondateur de 1776, qui s'appelle « Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations ». La richesse se disant « wealth » en anglais, et Smith la définissant comme l'étendue des nécessités, des commodités et des agréments de la vie humaine dont un homme peut jouir. 50 ans plus tard, David Ricardo, dans une lettre de 1820 à Thomas Malthus, économiste et démographe qui lui est contemporain, écrit « L'économie est, selon vous, une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie comme une enquête au sujet de la répartition du produit de l'industrie entre les classes qui concourent à sa formation. Pour Ricardo, par conséquent, l'étude de la croissance de la richesse matérielle est vaine. Seule peut faire l'objet d'une analyse scientifique la répartition de cette richesse entre les classes sociales qui possèdent les différents moyens de production, à savoir les ouvriers qui ne possèdent que leurs bras, les propriétaires fonciers qui possèdent la terre et les industriels, qu'ils soient industriels fermiers ou industriels des manufactures, qui, eux, avancent du capital pour acheter des machines, louent la terre aux propriétaires fonciers et payent les ouvriers à un salaire de subsistance, ce qui était le cas au XVIIIe siècle. Par cette division de la société en trois classes, classes définies par les moyens de production qu'elles détiennent, Ricardo construit ce que nous appellerons un cadre analytique. Et dans ce cadre, à l'intérieur de ce cadre, il construit un modèle de répartition de la richesse créée. Ce cadre est celui de tous les économistes dits classiques. Marx développera son analyse dans ce même cadre. C'est en ce sens un économiste classique. Il ira bien au-delà de Ricardo et s'intéressera à la dynamique de la répartition des richesses, mais aussi de la croissance et des crises. Marx prédira en particulier que le capitalisme, en concentrant excessivement les richesses aux mains des détenteurs des moyens de production, engendrera des crises de plus en plus graves qui finiront par porter à la conscience de la classe ouvrière qu'un autre système économique est possible. Le cadre analytique des classiques est complètement abandonné 50 ans après Ricardo et dès la disparition de Marx, avec une génération d'économistes qu'on appelle les néoclassiques. L'un des fondateurs de ce courant de l'analyse économique, Stanley Givens, définit l'économie en 1871 ainsi. « J'ai entrepris, dit-il, de traiter l'économie comme un calcul des plaisirs et des peines. Puisqu'il y est question de quantité, ce doit être une science mathématique. » C'est un changement complet de cadre analytique. Désormais, nous n'avons plus de classe sociale détentrice de moyens de production. Nous avons des producteurs et des consommateurs qui vont tous chercher à maximiser leur bien-être, défini comme précisément la différence entre leurs plaisirs et leurs peines. Les modèles néoclassiques vont se développer jusqu'à leur apogée au tournant du siècle avec le modèle d'équilibre général de Walras, formalisé plus rigoureusement après la Seconde Guerre mondiale par Arrow et Debreu. Ce modèle mathématise l'une des intuitions centrales de Smith, à savoir qu'un grand nombre d'individus égoïstes, poursuivant chacun leur intérêt individuel et coordonnée par la main invisible du marché concurrentiel, conduisent à un état social de bien-être maximal. Cependant, dès le début du XXe siècle, avec quelques précurseurs au XIXe comme Cournot, se sont développées en parallèle des analyses des imperfections de marché, telles que les monopoles, les fortes concentrations géographiques d'activités, ce qu'on appellerait aujourd'hui des clusters, les pollutions environnementales, la diffusion gratuite des connaissances. Ces imperfections éloignent fortement l'économie réelle des situations d'équilibre socialement satisfaisantes que décrivaient les modèles néoclassiques. L'analyse des imperfections de marché se poursuit et s'amplifie tout au long du XXe siècle. Un économiste comme Keynes fait partie de ce courant. Il met l'accent sur des imperfections de marché dans les domaines de la finance et des marchés du travail, imperfections qui peuvent conduire à des situations d'ensemble très sous-optimales, comme par exemple le chômage de longue durée. Un signe que les marchés ne parviennent pas toujours à l'équilibre, puisqu'il y a des gens prêts à travailler au salaire pratiqué qui cependant ne trouvent pas de travail. 50 ans après les fondateurs de l'école néoclassique, Lionel Robbins donnera de l'économie une définition restée célèbre, qui va permettre d'en élargir le champ d'application. L'économie, dit Robbins, est une science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares à usage alternatif. Vous voyez qu'avec une telle définition, l'économie peut prétendre devenir une science générale du comportement rationnel humain, puisqu'il est toujours rationnel, avec des moyens limités, d'essayer de faire plutôt plus que moins dans pratiquement tous les domaines de l'activité humaine. Cet élargissement du champ de l'économie à l'étude des comportements humains rationnels a été revendiqué et pratiqué par les nouveaux classiques, des économistes principalement américains des années 70 et 80, dont Gary Becker, inventeur de la théorie du capital humain, qui en 1976 énonçait « L'économie consiste en la combinaison des hypothèses de comportement maximisateur, de stabilité des préférences et d'équilibre des marchés, hypothèses utilisées avec acharnement et sans état d'âme. » L'économie est ainsi définie par son cadre analytique. Des acteurs dont les préférences sont stables et qui maximisent quelque chose, leur profit, leur bien-être, etc. Acteurs coordonnés par des marchés qui s'équilibrent, c'est-à-dire des marchés où se forment des prix ayant la vertu d'engendrer une égalité de l'offre et de la demande à ce prix. L'objet de l'économie devient donc l'ensemble des comportements humains qui peuvent être traités dans ce cadre analytique. C'est ainsi que les nouveaux classiques ont étudié les comportements en matière de mariage, de choix des études et même de délinquance. C'est ainsi qu'un article récent, publié dans une prestigieuse revue, analyse de quel côté doit plonger le gardien de but qui connaît le tireur de pénalty qui lui-même le connaît pour maximiser ses chances d'arrêter le tir. Les modèles des nouveaux classiques traite des questions macroéconomiques en rassemblant tous les agents individuels dans un seul agent représentatif, maximisateur. Un consommateur qui les représente tous et qui maximise son bien-être, par exemple. Cette extrême simplification de leur cadre analytique ne permet pas à ces modèles de traiter des questions comme les inégalités entre les individus ou les entreprises. Or, cette question est devenue politiquement très importante tandis qu'on dispose désormais de plus en plus de données individuelles qui permettent de les mesurer. Pour terminer, je dirais un mot sur les évolutions les plus contemporaines de l'analyse économique. Avec la mise à disposition des économistes de grandes quantités de données individuelles, l'économie a aujourd'hui tendance à devenir une simple interprétation des résultats du traitement des données massives par les techniques économétriques. Ceci a renouvelé comme nous le verrons au chapitre 6, le débat sur le caractère scientifique ou pas de l'économie.